Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous voici donc de retour cette semaine dans nos habituelles lectures en liberté pour la suite du roman de Georges Perec, Les choses. Pendant une heure, alors, ils tentaient de se mettre d'accord sur le film qu'ils iraient voir. Ils parlaient pour ne rien dire, ils jouaient aux devinettes ou aux portraits chinois. Chaque couple resté seul parlait amèrement des autres, et parfois d'eux-mêmes. Ils évoquaient avec nostalgie leur jeunesse passée. Ils se souvenaient d'avoir été enthousiastes, spontanés, riches de projets vrais, d'images somptueuses, de désirs. Ils rêvaient d'amitiés nouvelles. Mais ils ne parvenaient qu'à peine à les imaginer. Lentement, mais avec une évidence inexorable, le groupe se disloqua. Avec une soudaineté parfois brutale, en quelques semaines à peine, il devenait évident pour certains que plus jamais la vie d'antan ne serait possible. La lassitude était trop forte, le monde alentour trop exigeant. Ceux qui avaient vécu dans des chambres sans eau, qui avaient déjeuné d'un quart de baguette, qui avaient cru vivre comme bon leur semblait, ceux qui avaient tiré la corde sans que jamais elle casse, un beau jour, prenait racine. Presque naturellement, presque objectivement, la tentation s'imposait d'un travail stable, d'un poste solide, de primes, de mois doubles. L'un après l'autre, presque tous les amis succombèrent. Au temps de la vie sans amarre, succédaient les temps de la sécurité. Nous ne pouvons pas, disait-il, continuer toute notre vie comme ça. Et ce « comme ça » était un geste vague, tout à la fois la vie de patachon, les nuits trop brèves, les patates, les vestes élimées, les corvées, les métros. Petit à petit, sans y prendre vraiment garde, Jérôme et Sylvie se retrouvèrent presque seuls. L'amitié n'était possible, leur semblait-il, que quand ils se tenaient les coudes, quand ils menaient la même vie. Mais qu'un couple soudain acquiert ce qui pour l'autre était presque la fortune ou la promesse d'une fortune à venir, et que l'autre, en retour, privilégie sa liberté conservée, c'était deux mondes qui semblaient s'affronter. Ce n'étaient plus des brouilles passagères, mais des failles, des scissures profondes, des blessures qui ne se refermaient pas d'elles-mêmes. Une méfiance qui, quelques mois auparavant, aurait été impossible, s'instaurait dans leur rencontre. Ils se parlaient du bout des lèvres. Il semblait à tout instant se lancer des défis. Jérôme et Sylvie furent sévères, furent injustes. Ils parlèrent de trahison, d'abdication. Ils se plurent à assister aux ravages foudroyants que l'argent, disait-il, creusait chez ceux qui lui avaient tout sacrifié et auxquels, pensait-il, ils échappaient encore. Ils virent leurs anciens amis s'installer presque sans peine, presque trop bien, dans une hiérarchie rigide, et adhérer sans recul au monde dans lequel ils entraient. Ils les virent s'aplatir, s'insinuer, se prendre au jeu de leur pouvoir, de leur influence, de leur responsabilité. À travers eux, ils croyaient découvrir l'exact envers de leur propre monde, celui qui justifiait en bloc l'argent, le travail, la publicité, les compétences, un monde qui valorisait l'expérience, un monde qui les niait, le monde sérieux des cadres, le monde de la puissance. Ils n'étaient pas loin de penser que leurs anciens amis étaient en train de se faire avoir. Ils ne méprisaient pas l'argent, peut-être au contraire l'aimaient-ils trop. Ils auraient aimé la solidité, la certitude, la voie limpide vers le futur. Ils étaient attentifs à tous les signes de la permanence. Ils voulaient être riches. Et s'ils se refusaient encore à s'enrichir, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de salaire. Leur imagination, leur culture ne les autorisait qu'à penser en millions. Ils se promenaient souvent le soir, humaient le vent, léchaient les vitrines. Ils laissaient derrière eux le 13e, tout proche, dont ils ne connaissaient guère que la venue des Gobelins à cause de ses 4 cinémas, évitaient la sinistre rue Cuvier qui ne les eût conduits qu'aux abords plus sinistres encore de la gare d'Austerlitz, et empruntaient presque invariablement la rue Monge, puis la rue des Écoles, gagnait Saint-Michel, Saint-Germain. Et de là, selon les jours ou les saisons, le Palais-Royal, l'Opéra ou la gare Montparnasse, Vavin, la rue d'Assas, Saint-Sulpice, le Luxembourg. Ils marchaient lentement. Ils s'arrêtaient devant chaque antiquaire, collaient leurs yeux aux devantures obscures, distinguaient à travers les grilles les reflets rougeâtres d'un canapé de cuir, le décor de feuillage d'une assiette ou d'un plat en faïence, la luisance d'un verre taillé ou d'un bougeoir de cuivre, la finesse galbée d'une chaise cannée. De station en station, antiquaire, libraire, marchands de disques, cartes des restaurants, agences de voyage, chemisiers, tailleurs, fromagers, chausseurs, confiseurs, charcuteries de luxe, papetiers, leur itinéraire composait leur véritable univers. Là reposaient leurs ambitions, leurs espoirs. Là était la vraie vie, la vie qu'ils voulaient connaître, qu'ils voulaient mener. C'était pour ces saumons, pour ces tapis, pour ces cristaux, que 25 ans plus tôt, une employée et une coiffeuse les avaient mis au monde. Lorsque le lendemain la vie de nouveau les broyait, lorsque se remettait en marche la grande machine publicitaire dont ils étaient les pions minuscules, il leur semblait qu'ils n'avaient pas tout à fait oublié les merveilles estompées, les secrets dévoilés de leur fervente quête nocturne. Ils s'asseyaient en face de ces gens qui croient aux marques, aux slogans, aux images qui leur sont proposées et qui mangent de la graisse de bœuf écarie en trouvant délicieux le parfum végétal et l'odeur de noisette. Mais eux-mêmes, sans trop savoir pourquoi, avec le sentiment curieux, presque inquiétant, que quelque chose leur échappait, ne trouvaient-ils pas belles certaines affiches, formidables certains slogans, géniaux certains films annonces ? Ils s'asseyaient et ils mettaient en marche leur magnétophone. Ils disaient « avec le ton qu'il fallait. Ils truquaient leurs interviews, ils bâclaient leurs analyses, ils rêvaient confusément d'autre chose. Comment faire fortune ? C'était un problème insoluble. Et pourtant, chaque jour, semblait-il, des individus isolés parvenaient pour leur propre compte à parfaitement le résoudre. Et ces exemples à suivre, éternels garants de la vigueur intellectuelle et morale de la France, aux visages souriants et avisés, malins, volontaire, plein de santé, de décision, de modestie, était autant d'images pieuses pour la patience et la gouverne des autres, ceux qui stagnent, piétinent, rongent leurs freins, mordent de la poussière. Il savait tout de l'ascension de ses chéris de la fortune, chevalier d'industrie, polytechnicien intègre, requin de la finance, littérateur sans rature, globe-trotteur, pionnier, marchand de soupe en sachet, prospecteur de banlieue, crooner, playboy, chercheur d'or, brasseur de millions, leur histoire était simple. Ils étaient encore jeunes et étaient restés beaux, avec la petite lueur de l'expérience au fond de l'œil, les tempes grises des années noires, le sourire ouvert et chaleureux qui cachait les dents longues, les pouces opposables, la voix charmeuse. Ils se voyaient bien dans ces rôles. Ils auraient trois actes au fond d'un tiroir. Leur jardin contiendrait du pétrole, de l'uranium. Ils vivraient longtemps dans la misère, dans la gêne, dans l'incertitude. Ils rêveraient de prendre ne serait-ce qu'une seule fois le métro en première. Et puis soudain, brutal, échevelé, inattendu, éclatant comme un tonnerre, la fortune. Leur pièce serait acceptée, leur gisement découvert, leur génie confirmé. Les contrats tomberaient à l'appel et ils allumeraient leur Havane avec des billets de 1000. Ce serait une matinée comme les autres. Sous la porte d'entrée, on aurait glissé trois enveloppes longues et étroites, aux entêtes imposantes, gravées en relief, aux subscriptions précises et régulières, frappées sur une IBM direction. Leurs mains trembleraient un peu en les ouvrant, ce seraient trois chèques, avec des ribambelles de chiffres, ou bien une lettre. « Monsieur ». Monsieur Potdevin, votre oncle étant mort ab intesta, et ils passeraient la main sur le visage, doutant de leurs yeux, croyant rêver encore, ils ouvriraient la fenêtre toute grande. Ainsi rêvaient-ils, les imbéciles heureux, d'héritage, de gros lots, de tiercés. La banque de Monte Carlo sautait. Dans un wagon désert, une sacoche oubliée dans un filet, des liasses de gros billets. Dans une douzaine d'huîtres, un collier de perles, ou bien une paire de fauteuils boule chez un paysan illettré du Poitou.
I tried.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Les choses de Georges Perec, suite. De grands élans les emporteraient. Parfois, pendant des heures entières, pendant des journées, une envie frénétique d'être riche tout de suite, immensément, à jamais, s'emparait d'eux, ne les lâchait plus. C'était un désir fou, maladif, oppressant, qui semblait gouverner le moindre de leurs gestes. La fortune devenait leur opium. Ils s'en grisaient. Ils se livraient sans retenue au délire de l'imaginaire. Partout où ils allaient, ils n'étaient plus attentifs qu'à l'argent. Ils avaient des cauchemars de millions de joyaux. Ils fréquentaient les grandes ventes de Drouot, de Galliera. Ils se mêlaient aux messieurs qui, un catalogue à la main, examinaient les tableaux. Ils voyaient se disperser des pastels de Degas, des timbres rares, des pièces d'or stupides, des éditions fragiles de La Fontaine ou de Crébillon, somptueusement reliées par Le Derrer, d'admirables meubles à l'estampille de Claude Séné ou d'Eulenberg, des tabatières d'or et d'émail. Le commissaire-priseur les présentait à la ronde. Quelques personnes à l'air grave venaient les flairer. Un murmure passait dans la salle. Les enchères commençaient. Les prix grimpaient, puis le marteau retombait, c'était fini, l'objet disparaissait. 5 ou 10 millions passaient à portée de leurs mains. Ils en suivaient parfois les acquéreurs. Ces heureux mortels n'étaient le plus souvent que des sous-ordres, des commis d'antiquaires, des secrétaires particuliers, des hommes de paille. Ils les amenaient au seuil de maisons austères. Voix Oswaldo Cruz, boulevard Beau Séjour, rue Maspero, rue Spontini, Villa Saïd, avenue du Roule. Au-delà des grilles, des buissons de buis, des allées de gravier, des rideaux parfois imparfaitement tirés, laissaient entrevoir de grandes pièces à peine claires. Il distinguait les vagues contours des divans et des fauteuils, les taches imprécises d'une toile impressionniste. Et il rebroussait chemin, pensif, irrité. Un jour même, ils rêvèrent de voler. Ils s'imaginèrent longuement, vêtus de noir, une minuscule lampe électrique à la main, une pince, un diamant de vitrier dans leur poche, pénétrant, la nuit tombée, dans un immeuble, gagnant les caves, forçant la serrure primaire d'un monte-charge, atteignant les cuisines. Ce serait l'appartement d'un diplomate en mission, d'un financier véreux, au goût néanmoins parfait, d'un grand dilettante, d'un amateur éclairé. Ils en connaîtraient les moindres recoins. Il saurait où trouver la petite Vierge du 12e, le panneau ovale de Sebastiano del Piombo, le lavis de Fragonard, les deux petits Renoirs, le petit Boudin, l'Atlan, le Max Ernst, le De Stael, les monnaies, les boîtes à musique, les drageoires, les pièces d'argenterie, les faïences de Delphes. Leur geste serait précis et décidé. Comme s'il les avait maintes fois répétés, ils se déplaceraient sans hâte, sûrs d'eux, efficaces, imperturbables, flegmatiques. Arsène Lupin des temps modernes. Pas un muscle de leur visage ne tressaillirait. Une à une, les vitrines seraient fracturées, une à une, les toiles décrochées du mur, déclouées de leur cadre. En bas les attendraient leur voiture, ils seraient fait le plein la veille. Leur passeport serait en règle. Depuis longtemps, ils se seraient préparés à partir. Leur mal les attendrait à Bruxelles. Ils prendraient la route de Belgique, passeraient la frontière sans encombre, puis, petit à petit, sans précipitation, au Luxembourg, à Anvers, à Amsterdam, à Londres, aux États-Unis, en Amérique du Sud, ils revendraient leur butin. Ils feraient le tour du monde, Ils erreraient longtemps au gré de leur plaisir. Ils se fixeraient enfin dans un pays au climat agréable. Ils achèteraient quelque part au bord des lacs italiens, à Dubrovnik, aux Baléares, à Sélafou, une grande maison de pierre blanche perdue au milieu d'un parc. Et ils n'en firent rien, bien sûr. Ils n'achetèrent même pas un billet de la loterie nationale. Tout au plus mirent-ils dans leur partie de poker, qu'ils découvraient alors et qui était en passe de devenir l'ultime refuge de leurs amitiés fatiguées, un acharnement qui, à certains instants, pouvait paraître suspect. Ils jouèrent certaines semaines jusqu'à 3 ou 4 parties, et chacune les tenait éveillés jusqu'aux premières heures du jour. Ils jouaient petits jeux, si petits jeux qu'ils n'avaient que l'avant-goût du risque et que l'illusion du gain. Et pourtant, quand avec 2 maigres paires, ou mieux encore, avec une fausse couleur, ils avaient jeté sur la table d'un seul coup un gros tas de jetons valant au bas mot 300 francs, anciens, et ramassé le pot, quand ils avaient fait pour 600 francs de papier, les avaient perdus en 3 coups, les avaient regagnés, et bien plus en 6, un petit sourire triomphant passait sur leur visage. Ils avaient forcé la chance. Leur mince courage avait porté ses fruits. Ils n'étaient pas loin de se sentir héroïques. Une enquête agricole les mena dans la France entière. Ils allèrent en Lorraine, en Saintonge, en Picardie, en Beauce, en Limagne. Ils virent des notaires de vieilles souches, des grossistes, dont les camions sillonnaient le quart de la France, des industriels prospères, des gentlemen farmers qu'escortaient en tout temps une meute de grands chiens roux et de factotums aux aguets. Le grenier regorgeait de blé. Dans les grandes cours pavées, les tracteurs rutilants faisaient face aux voitures noires des maîtres. Ils traversaient le réfectoire des ouvriers, la gigantesque cuisine où s'affairaient quelques femmes, la salle commune, au plancher jauni, où nul ne se déplaçait que sur des patins de feutre, avec sa cheminée imposante, le poste de télévision, les fauteuils à oreilles, les huches de chêne clair, les cuivres, les étains, les faïences. Au bout d'un corridor étroit, tout imprégné d'odeurs, une porte s'ouvrait. Sur le bureau. C'était une pièce presque petite à force d'être encombrée. À côté d'un vieux téléphone à manivelle accroché au mur, un planning résumait la vie de l'exploitation, les emblavages, les projets, les devis, les échéances. Un tracé éloquent témoignait de rendements records. Sur une table surchargée de quittances, de feuilles de paix, de mémoires et de paperasse, un registre relié de toile noire, ouvert à la date du jour, laissait voir les longues colonnes d'une comptabilité florissante. Des diplômes encadrés, taureaux, vaches laitières, truies primées. Voisinette avec des fragments de cadastre, avec des cartes d'état-major, des photos de troupeaux et de basse-cours, des prospectus en quadrichromie de tracteurs, de batteuses, d'arracheuses, de semoirs. C'est là qu'ils branchaient leur magnétophone. Ils s'enquéraient gravement de l'insertion de l'agriculture dans la vie moderne, des contradictions de l'exploitation rurale française, du fermier de demain, du marché commun, des décisions gouvernementales en matière de blé et de betteraves, de la stabulation libre et de la parité des prix. Mais leur esprit était ailleurs. Ils se voyaient aller et venir dans la maison désertée. Ils montaient des escaliers cirés, pénétraient dans des chambres aux volets clos qui sentaient le remugle. Sous des housses de toile bise reposaient des meubles vénérables. Ils ouvraient des placards hauts de 3 mètres, pleins de draps parfumés à la lavande, de bocaux d'argenterie. Dans la pénombre des greniers, ils découvraient d'insoupçonnables trésors. Dans les caves interminables les attendaient les foudres et les barriques, les jarres pleines d'huile et de miel, les tonneaux de salaison, les jambons fumés aux genièvres, les tonnelets de marc. Ils déambulaient dans les buanderies sonores, dans les soutes à bois, dans les soutes à charbon, dans les fruiteries où, sur des claies superposées, s'alignaient sans fin pommes et poires, dans les laiteries aux odeurs sûres où s'amoncelaient les mottes de beurre frais glorieusement marquées d'une empreinte humide, les bidons de lait, les jattes de crème fraîche, de fromage blanc, de cancoyotte. Ils traversaient des étables, des écuries, des ateliers, des forges, des hangars, des fours où cuisaient d'énormes miches, des silos gonflés de sacs, des garages. Du sommet d'un château d'eau, ils voyaient la ferme tout entière en serrant sur ses quatre côtés la grande cour pavée avec ses deux portails en ogive, la basse-cour, la porcherie, le potager, le verger, la route bordée de platanes qui menait à la nationale et tout autour, à l'infini, les grandes stries jaunes des champs de blé, les futaies, les taillis, les pacages, les traces noires rectilignes des routes sur lesquelles parfois filait le scintillement d'une voiture et la ligne sinueuse des peupliers longeant une rivière encaissée, presque invisible, se perdant à l'horizon vers des collines brumeuses. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Georges Perec, Les Choses, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.